Je voudrais commencer ce message. C'était difficile pour moi de commencer ce message sans évoquer l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Pour rappel, dans la banlieue de Moscou, vendredi dernier, il y a 2 jours, des terroristes se sont introduits dans un lieu de culture, un endroit de spectacle. Un spectacle était donné, un concert était donné. Et à l'heure où on en est, ils ont tiré sur la foule et on en est à peu près 140 victimes, dont des enfants. Et en tant que Français, ça m'a évoqué tout un lot de souvenirs, parce qu'en voyant les images, en voyant ce qui s'est passé, ça évoque un certain 13 novembre 2015, l'attaque qu'il y a eu au Bataclan en France. Et en tant que chrétien, on peut se sentir comme chamboulé. On peut sentir qu'il y a une forme de « waouh, ok, ça se passe peut-être loin de chez nous, mais ça nous atteint ». Moi, ça m'a atteint. Quand j'ai vu ces images, je me suis replongé à quelques années auparavant, ce qu'on avait vécu en France, vous l'entendez, donc je suis français. Et ça m'a ému, ça m'a beaucoup touché, et beaucoup de compassion est née envers ces familles qui ont été touchées, ces gens qui étaient venus, qui n'avaient rien demandé à personne, des civils touchés avec leurs familles, leurs femmes et leurs enfants. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que nous, on peut vivre en tant que chrétiens parfois? Comment est-ce qu'on peut chercher cette paix? J'aimerais vous proposer quelque chose ce matin. C'est le fait que dans la résurrection de Jésus réside la seule source de paix universelle pour les nations. Et quand je lisais ces dernières semaines, je lisais dans un livre de Jean-Marie Guéhenno qui s'appelle « Le premier 21e siècle ». C'est un livre qui a été écrit par l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Jean-Marie Guéhenno a été, fin des années 90, début des années 2000, secrétaire adjoint des Nations Unies auprès de Kofi Annan, qui était lui donc secrétaire général. Il a écrit ce livre que j'ai découvert récemment qui s'appelle « Le premier 21e siècle ». Et en fait, il n'est pas du tout chrétien. Mais dans son introduction, au début il a livré une description qui, moi, m'a rappelé, en tant que chrétien, je me suis dit, ça, c'est la meilleure définition, finalement, du péché, autant au point de vue, et de l'influence du péché, autant au point de vue de la géopolitique internationale, des nations, de tout ce qui se passe, mais aussi au niveau de nos cœurs. Il dit ceci, dans l'introduction, donc. « Il m'a fallu 8 ans, c'est les premiers mots de son ouvrage, il m'a fallu 8 ans à la direction des opérations de maintien de la paix de l'ONU, pour comprendre la fragilité des sociétés humaines. La paix semble être normale dans une société, comme l'air que nous respirons. Mais j'ai réalisé, en voyant des pays déchirés par la guerre, que ce n'est pas le cas. Le respect des lois, la confiance envers les autres sont fragiles et peuvent être perdus facilement. Une fois perdus, il est très difficile de les retrouver, et cela crée un monde de méfiance où personne ne se fait confiance. Cela m'a fait voir les sociétés en paix, non pas comme la norme, mais comme des réussites rares et toujours menacées. Au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, Kofi Annan, qui était donc secrétaire général des Nations Unies, a dit cette phrase qui est restée célèbre, « La paix est désormais un rêve suspendu ». J'aimerais te dire ce matin que la paix n'est pas un rêve suspendu. La paix que Jésus donne, elle est disponible pour toi, elle est disponible pour nous aujourd'hui, alors qu'on se sent peut-être submergé par les émotions, dans l'incompréhension, je peux te dire qu'il y a la paix que Jésus donne, et cette paix, elle se trouve dans la résurrection et dans ton propre chemin vers la résurrection que Jésus va te donner par grâce. Cette paix réconciliatrice, on peut la lire. On peut la lire dans Colossiens 1, 20. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, « Et par lui, donc par Jésus, il a voulu réconcilier tout avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Cette paix, elle se trouve dans l'œuvre de Christ à la croix, ce qu'on va célébrer la semaine prochaine avec Pâques. Et alors que je prends ce thème de la résurrection, si on prend la définition du terme « résurrection », ça vient du grec « anastasis », en tout cas dans la Bible, il est utilisé sous ce mot-là. Donc, j'ai mis un mot grec parce que je me suis dit que ça faisait tout de suite plus intelligent de mettre un mot grec pour commencer. Et le dictionnaire Robert, donc français, il dit « La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie, le retour à l'activité, le nouvel essor. » Moi, j'aimerais vous proposer cette définition, le retour de la mort à la vie. C'est le titre que j'ai donné à mon message, « De la mort à la vie ». Dans l'Épître aux Romains, on peut lire ceci, ce verset que vous connaissez bien, Et peut-être si vous empruntez le pont Jacques-Cartier, vous allez comprendre, vous le voyez aussi, disons, dit d'une façon un petit peu différente. Dans Romains 6, 23, on peut lire « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Je parlais à la blague avec ce qu'on peut voir parfois illuminé dans des lettres à certains endroits, à certains endroits en particulier à Montréal. Et j'aimerais vous dire qu'il y a toute une branche du christianisme qui se sert parfois de ce verset pour instiguer comme la peur, comme instiguer la crainte, souvent en déformant complètement même les propos de ce verset et même le sens profond de ce verset. Mais plus que la peur, c'est l'espoir qu'il y a dans ce verset. C'est une vie nouvelle et j'aimerais, si vous le voulez bien, à la fin de ce message, vous donner cette saveur au travers de ce verset et de vous le donner, ce verset, comme de le voir complètement différemment, d'une autre façon. Quand on le lit ensemble, il y a « car le salaire du péché, c'est la mort », point virgule, « mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». Il y a comme deux bouts de phrase séparés d'un point virgule. Il y a comme trois oppositions dans ce verset-là. La première des oppositions, c'est la notion de salaire, qui est une rétribution juste, attendue, quelque chose de prévu. Un salaire, c'est quelque chose qui est défini à l'avance, qui s'oppose dans la deuxième partie du verset au don gratuit. Littéralement, le passage parle de don de grâce. Et un don, c'est ce qui n'attend aucune compensation. Il n'y a aucune rétribution dans un don. On te donne, puis on n'attend rien en retour. C'est ça un don, la différence d'un salaire. Autre opposition, le péché, qui représente l'impureté, la tâche originelle, comme on peut l'employer parfois, et Dieu, qui lui est d'une pureté absolue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce verset, le grec qui est utilisé, c'est très intéressant de voir qu'en fait le péché est comme personnalisé dans ce verset, comme si le péché était quelqu'un d'humain, comme si le péché était le vrai maître de l'homme qui donne son salaire à l'homme. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la troisième opposition. La mort qui est quelque chose de final, quelque chose de permanent, qui s'oppose à la vie éternelle, ce nouvel espoir dont je veux parler ce matin. Donc on a ces trois composantes, ces trois aspects essentiels, et je voudrais te suggérer ce matin que ces trois aspects essentiels sont les éléments moteurs dans notre chemin vers la résurrection. Premier point, donc, la foi. La foi est la clé de tout. On peut le lire dans un verset dans Hébreux 11, 6. Si vous avez votre Bible, je vous invite toujours à suivre dans la Bible, mais sinon, évidemment, les versets vont s'afficher. Hébreux 11, 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On vient de parler de salaire. Qu'est-ce que nous dit ce verset ? Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu trouves Dieu. Si tu cherches de tout ton cœur, si tu ouvres ton cœur, si tu cherches à connaître, à savoir, si ton cœur est empreint de foi, alors Dieu va te rémunérer, va te donner. C'est prévu, c'est défini. Il va se présenter à toi. Et souvent, on se dit, ben voilà, la foi, on essaie de trouver des exemples de ce qu'est la foi. Mais ce matin, j'aimerais prendre une approche un petit peu particulière, si vous permettez. J'aimerais vous parler de ce que la foi n'est pas. Il y a deux semaines de ça, j'ai écouté le message de pasteur Florian qui parlait aux baptisés. Et il parlait de cet aspect qui va leur être un défi pour eux tout au long de leur vie et de leur marche spirituelle, qui est le légalisme. Et le légalisme, en fait, on pourrait le résumer sur c'est tout ce qui se passe, tout ce qui vient se mettre entre toi et le don gratuit de Dieu. Ce qui vient se mettre, ce qui vient s'interrompre entre toi et le don que Dieu veut te donner. Alors, comment ça se traduit, ces choses-là ? Ben, en fait, quand on prend même originellement, la foi, c'est ce qui a toujours manqué à l'homme. Dès le départ, quand Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, c'est cette confiance dans la provision de Dieu qui a manqué, cette confiance dans la constance, dans son amour, dans sa présence. Dès le départ, l'homme est passé de la grâce, de l'abondance, de tout ce qui était offert par Dieu, vers quoi ? Vers une survie par ses propres moyens. En fait, cet aspect, il est central dans la chute même de l'homme et dans son départ du jardin d'Éden. On peut le lire dans Genèse 3, verset 17, jusqu'au verset 19. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. » En gros, ce qui est dit ici, c'est ben, à partir de maintenant, tu vas devoir, par ton travail, par tes œuvres, par ta propre subsistance, tu vas devoir pourvoir à ta propre subsistance. Mais j'ai une nouvelle pour toi, même si tu donnes tout, si tu te donnes à fond dans ton travail, dans tes œuvres, dans ta survie, eh ben non, tu vas échouer, quoi qu'il arrive, parce que tu vas terminer dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. À partir du moment où l'homme a été, il a eu cette tâche, le péché qui est venu dans sa vie, que nous dit l'apôtre Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un point virgule. Il y a un point virgule. Mais le don gratuit, le don de grâce, quelque chose qui t'est offert aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui nous est offert, nous, en tant que chrétiens. Mais tant, on a tellement tendance à vouloir mettre des choses entre ça et le don gratuit de Dieu. Dans ce cas-là, on voit l'homme qui quitte la providence pleine et entière de Dieu pour une vie d'effort individuel. J'aimerais te dire ce matin que le chemin vers la résurrection, c'est le chemin complètement inverse. On dit que la foi, c'est croire sans voir. On a raison de dire ça. La foi, c'est saisir le pardon en réponse à l'amour de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui naît de nous, mais non, c'est une réponse. On expérimente l'amour de Dieu, on se donne complètement à lui, on reçoit son amour en réponse, la foi. Alors, je crois. Parce qu'il nous a aimés le premier, alors je peux emprunter ce chemin vers la transformation. On parle aussi parfois, le terme de transformation, on l'appelle sanctification. C'est un mot qu'on peut entendre aussi. Ça veut dire la transformation au quotidien. Mais on a tendance à inverser les choses. La transformation de ta vie, c'est la conséquence du salut et non l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu une discussion, pasteur Florian parlait de ma famille, puis j'ai trois ados à la maison, dont le plus grand qui a 16 ans. Je viens d'avoir 40 ans. C'est à ce moment-là où vous dites « Oh, wow, 40 ans, tu ne les fais pas, tu fais tellement plus jeune. » Vous pouvez y aller, allez-y, c'est pas vrai. Mais non, j'ai un garçon de 16 ans à la maison et il s'appelle Maxime. Puis Max, il a eu une discussion avec moi il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines de ça. Et il a commencé avec ses propres mots d'adolescent à vouloir me solliciter une discussion par ses mots. « Wesh le daron !» Donc, je lui ai répondu en ces termes pour qu'il puisse me comprendre et qu'une discussion puisse s'établir. « Wesh le fiston !» Voilà. Et puis, il a commencé, en fait, il avait tout un lot de questions. Puis, il m'a dit « Ouais, en tant que chrétien, on ne peut pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Comment est-ce que je parle de ça à mes copains ?» Comment je peux leur dire? Ils me prennent pour un fou, ils me prennent pour un idiot. Je ne peux pas leur dire ça. Je dis, mais tu te trompes, Max. Tu te trompes sur un point. C'est que tu essayes de leur donner tes valeurs éthiques, etc., sans leur parler de Jésus. Tu es obligé de leur parler de Jésus. Si tu ne leur parles pas de Jésus et de l'action qu'il fait dans ta vie, l'action qui fait qu'il change ta vie, c'est ça que tu dois leur amener. Parce que si tu amènes des valeurs et des codes éthiques, etc., c'est loin de ce monde, c'est à l'opposé complètement de ce monde. Tu ne peux pas amener ces valeurs-là sans amener Jésus avant. C'est d'abord ta foi en Jésus que tu dois amener. Et cet aspect-là, nous, en tant que chrétiens, on a tendance à l'oublier. On place la transformation, donc les œuvres, les choses qu'on doit faire, les choses qu'on doit changer, on les place avant comme si c'était une nécessité d'avoir ça pour changer. Mais c'est l'inverse. D'abord, on change. Ensuite vient la transformation. Et placer la transformation avant notre résurrection, finalement, c'est ça le légalisme. C'est placer le salut en condition des changements intérieurs. Cela veut dire que l'on doit changer pour être sauvé. C'est l'inverse. Mes frères et sœurs, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, on voit ça, c'est pas nouveau cet aspect-là. On le voit dès les évangiles. Quand Jésus est arrivé comme le Messie, même les disciples, ils pensaient que Jésus allait instaurer ce qu'on appelle un royaume théocratique, c'est-à-dire un royaume avec Dieu au centre, un royaume physique, humain, parce qu'il a dit « Je suis venu amener le royaume de Dieu ». Ils se sont dit « Oh, wow, super !» Un royaume avec des valeurs, on est sous la domination des Romains, super, il va chasser les Romains, puis il va ramener Dieu au centre. Mais Jésus, il a dit « Non, 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 c'est pas ça que je suis venu faire. Je suis venu amener le royaume de Dieu. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le changement de vie. Le royaume de Dieu, c'est changer ta destination éternelle. Le royaume de Dieu, c'est que je suis venu bouleverser tous les codes, a dit Jésus, pour pouvoir vous amener vers le salut, vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'était quelque chose de complètement nouveau, radical pour les disciples. Pour même les gens, quand Jésus rentre dans Jérusalem, là, juste avant la Pâque, justement, les gens écrivent « Hosanna, Hosanna, wouhou !» Quelques jours après, même pas quelques jours, quelques heures après, crucifie, crucifie, crucifie. Ils n'ont pas compris, ils n'avaient pas saisi cette notion du royaume de Dieu. Le théologien québécois, d'ailleurs Stéphane Réaume, il le met comme ça, il le pose comme ça. Le royaume de Dieu concerne avant tout une personne, Dieu. Il est courant de nos jours de considérer le royaume de Dieu comme un programme ou une idéologie à promouvoir. Le problème avec ce discours, c'est que l'on dissocie complètement le royaume de Dieu et la personne, entre guillemets, de Dieu ou de Jésus. Il va même dire un peu plus loin dans son ouvrage, il va dire, on a dans ce cas-là la première partie, le royaume, c'est là, mais la deuxième partie, le royaume de Dieu, ben, le de Dieu, il est minimisé, voire complètement évacué, au profit d'un idéal social ou éthique. Et vous pensez qu'on est loin de ça aujourd'hui ? Moi, il suffit que je regarde ce qui se passe au-delà de la frontière, de nos voisins, ou même dans l'Amérique du Sud, dans certains endroits. Et puis, je vous disais, je suis un peu un passionné de géopolitique, j'aime ça. Mais il suffit de regarder ça pour voir qu'on a toujours ce défi en tant que chrétien. Ce défi de vouloir imposer des choses éthiques, des valeurs, alors que ce que Dieu y change. Avant de changer la société, change ton cœur. Avant de changer la société, je viens changer les vies, je viens changer les cœurs. C'est après que le changement il se fait. Et souvent, on a tendance à dire, non, il faut imposer, il faut montrer, il faut donner cet exemple-là pour que les gens aient envie. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc aujourd'hui, on a toujours ce problème-là, cette tentation de penser que pour amener les gens vers Dieu, il faut d'abord imposer des transformations éthiques, sociales, religieuses. Du temps de Jésus, ceux qui ont fait ça, les pharisiens, les sadducéens. Jamais d'autres personnes, envers aucun autre groupe de personnes, Jésus a eu des mots plus durs que les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi. Il ne faut pas croire qu'on les met tous dans le même panier. Les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, c'était tous les mêmes. Non, ce n'était pas tous les mêmes. C'était plein de courants complètement différents. Les sadducéens et les pharisiens, ils se détestaient entre eux. Pourtant, ils sont tous unis pour une seule chose, accuser Jésus. Ah, ça, ils se sont retrouvés pour ça. Mais Jésus, il n'a jamais eu autant de mots aussi durs qu'envers eux. Ces gens-là qui cherchaient à imposer des valeurs religieuses éthiques avant les changements de leur cœur. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes blancs, mais il y a la mort à l'intérieur. Jésus veut faire l'inverse. Il veut te dire, oh, regarde, tu as cette tache de péché qui colle à ta peau. À l'extérieur, c'est ça. Mais je suis venu changer ta vie. L'intérieur, ton cœur. C'est tout l'inverse. La foi, c'est ça. C'est saisir la grâce de Jésus, ce cadeau qui est fait à la croix sans condition. Et aujourd'hui, jour après jour, on doit lutter contre ces choses-là. Ces choses-là de dire, vous savez, on l'a même dans notre propre façon de penser. Notre propre façon de penser, c'est « Oh, je viens dimanche pour Dieu, je viens pour l'adorer, je viens pour servir. » Non, il faut changer notre manière de penser. J'aimerais te dire ce matin que tu ne viens pas pour Dieu, tu viens parce que Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il a donné son Fils unique, parce qu'il t'a aimé le premier. C'est parce qu'il a fait que toi, en réponse, tu fais. Tu ne viens pas pour lui, tu viens parce que. Parce que lui, il a fait en premier. Parce que lui, il a tout donné pour toi. Je te dis que la foi est la clé de tout. Quand tu lèves tes mains dans la louange, ne le fais plus pour Dieu, tu le fais parce que Dieu m'a tant donné, parce que tu es digne, comme on l'a chanté, parce que je suis passé de l'ombre à la lumière. Merci, gloire à ton nom, tu es digne, Seigneur. Deuxième point ce matin que j'aimerais apporter avec vous, la notion de mourir à soi-même, qui est aussi présente dans ce verset-là. C'est quoi mourir à soi-même ? C'est comme un nom un peu compliqué, un peu une façon de parler un peu bizarre. Ça peut sembler bizarre. En fait, c'est quand on prend la chose en elle-même, c'est la conséquence directe de la foi. Quand on a confiance complètement en Dieu, alors on s'abandonne complètement et on accepte qu'on ne maîtrise plus tous les aspects de notre vie, mais c'est Dieu qui maîtrise les aspects de notre vie. Dans Hébreux 11, chapitre est ultra intéressant, très très intéressant. Je vous invite à le lire à la maison. C'est un chapitre où l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va vraiment amener tous les héros de la foi de l'Ancien Testament. Il va en parler et il va expliquer pourquoi ce sont des héros de la foi et en quoi ils ont été des héros de la foi. Et à un moment donné, il va parler d'Abraham. Au chapitre donc 11, au verset 17 et 18, il va dire « Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. » Dieu estimait-il, donc Abraham estimait, était assez puissant pour ressusciter un mort et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. D'autres versions de la Bible disent c'est une sorte de résurrection. En fait, ce texte-là, ce texte de Genèse qu'on va lire dans quelques instants, c'est comme une annonce à l'avance de la résurrection de Jésus. C'est le moment où Abraham, on lui a fait une promesse, Dieu a fait plus qu'une promesse, ils ont fait une alliance entre eux. Et cette alliance, c'était « Si tu me suis, si tu m'obéis, alors ta descendance sera comme les grains de sable, comme les étoiles dans le ciel, aussi nombreuses. » Il faut savoir qu'il y a des choses, dans la Bible, nous on a aujourd'hui le portrait final, on a la Bible dans son intégralité, on a les deux couvercles de la Genèse à l'Apocalypse, mais évidemment, Abraham, il n'avait pas ces aspects-là, lui. Abraham, il n'avait pas toute la révélation. La notion de vie après la mort, pour lui, elle était comme vraiment balbutiante. C'était le début. Il ne comprenait pas ces aspects-là qui, pour nous, aujourd'hui, en tant que croyants, on a une espérance dans la résurrection aussi éternelle. Mais lui, il n'avait pas tous ces aspects-là, Abraham. Donc quand il évolue, lui, pour lui, la notion de vie après la mort, la seule subsistance qui existait pour quelqu'un, pour un patriarche de son époque, c'était sa descendance. Qu'est-ce qui va rester de moi quand je vais mourir? Et c'était sa descendance, sa postérité, tout ce qu'il allait pouvoir laisser de lui-même. Et donc cet aspect-là, il a fait une alliance avec Dieu. Ils avaient des difficultés avec sa femme Sarah d'avoir un enfant. Et Dieu va lui faire cette promesse. Il va lui donner Isaac. Et à un moment donné, il va lui dire, tu vas offrir ton fils Isaac en sacrifice. C'est pas seulement son fils. Oui, c'est son fils, c'est un être cher. C'est toute l'alliance qui est remise en question pour Abraham. Il ne comprend pas. C'est sa notion de vie éternelle à lui. Attends, mais tu m'avais dit. Tu m'avais promis. On lit le texte ensemble. Genèse 22, 4 à 8. Le troisième jour, peut-être ça vous fait écho quand je vous parlais d'une préfiguration de la résurrection de Jésus. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Alors Isaac, donc son fils, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Bon, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ils marchèrent sur le chemin de la résurrection, j'ai ajouté. Regardez la foi d'Abraham. Abraham, il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il a décidé de croire complètement en disant, je ne comprends pas, mais je crois. Je ne vois pas, je n'ai pas encore saisi, mais je crois. Je crois en toi. Et là, il y a toute cette préfiguration justement de l'annonce de la mort de Jésus, parce qu'on a l'héritier qui va mourir. C'est ces choses-là qui nous rappellent ce que va faire Jésus, le sacrifice parfait de Jésus, le sujet de l'alliance. Quand Abraham croit, après, Abraham a vu et elle a vu la résurrection de son fils quelque part. Alors qu'il s'apprêtait à sacrifier, Dieu l'arrête et dit « Non, ça tu as juste un aperçu de ce que je vais faire. Mais mon œuvre parfaite, elle va venir plus tard. Mon œuvre parfaite, elle va être faite en Jésus. » Pour Jésus, il faut comprendre une chose. Quand il vient pour la Pâque, quand il vient, on va célébrer la Pâque la semaine prochaine, oui, il y a la résurrection, mais il n'y a pas la résurrection sans la mort. Sans sa mort à la croix. Et sa victoire sur le péché dans sa résurrection, elle est parfaite parce qu'il y a eu la mort à la croix. De notre côté à nous, c'est la même chose. Pour nous aujourd'hui, on n'a pas de mort à la croix, mais il n'y a pas de résurrection sans un abandon complet. Il n'y a pas de nouvelle vie sans un abandon complet. Il n'y a pas de vie nouvelle et entière sans cet abandon. Et c'est ce que j'ai appelé la mort à soi-même. Ça peut paraître paradoxal un petit peu parce que tu choisis de mourir à toi-même pour une vie nouvelle. Mais c'est là que la foi entre en compte. Et il y a ce... Je ne sais pas si vous connaissez qui est Martin Luther. C'est un moine au XVIe siècle qui a amené ce qu'on appelle la réforme. La réforme, c'est quand le protestantisme est né. C'était des moines catholiques qui en ont eu marre un petit peu de la façon dont, justement, il y avait... Tout était monétisé à ce moment-là. Dans la foi, tout était monétisé. Il fallait payer pour ça, fallait payer pour ça, pour les obligeances, fallait payer pour tout un aspect de choses. Et je résume, mais c'est ce qui s'est passé. Le moine a dit non, c'est pas ça la grâce. Je crois que c'est pas ça la grâce. Et un jour, donc un certain 31 octobre 1517, un moine en Allemagne, il a affiché sur la porte de son église en disant voilà moi maintenant ce que je crois. Voilà ce que je crois, ce que dit la Bible. C'est là qu'est née la réforme. Et ce moine-là, c'était Martin Luther. Et Martin Luther, à un moment, on lui disait, mais quelqu'un est venu le voir, puis lui a dit, « Oh, bah d'accord, si pour toi, c'est la grâce et le pardon des péchés, bah alors, on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on a tout qui est devant nous, on est dit, on peut faire ce qu'on veut. » Et Martin Luther a dit, « Oui, t'as raison, mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as dit ? T'as dit, quand on a Jésus, ma question maintenant se pose pour toi, quand on a Jésus, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Moi, ça me rappelle le psaume 22. Psaume 22 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il ne dit pas « Ok, Dieu va te donner ce que ton cœur désire, alors en échange, fais de l'Éternel tes délices. » C'est pourquoi il dit ça. D'abord, fais de l'Éternel tes délices. Parce que si tu t'approches de Dieu, si tu ouvres ton cœur à Dieu, alors tout ce qui vient en toi, tout ce qui s'imprime en toi, c'est plus les mêmes choses, c'est plus les mêmes désirs, comme disait Martin Luther. Maintenant, tu as Jésus, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Ce psaume-là, il te dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est quoi tes désirs maintenant? Tes désirs, ça devient ceux de Dieu. Tes rêves deviennent ceux de Dieu. Les choses qui sont en toi, qui se déposent en toi, que tu penses être tes propres rêves, c'est les rêves que Dieu est en train de placer en toi. Et c'est là que ça se passe, cette transformation de vie. Martin Luther, toujours lui, il a dit, un chrétien n'est jamais pleinement accompli, mais toujours dans un processus de devenir. Toujours en chemin. Et ça m'amène à mon troisième point, le don de la grâce. On a commencé, j'ai commencé ce message en lisant avec vous Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Théologien Charles Hodge a dit « L'enfer est toujours mérité, le ciel jamais. » Tu ne mérites pas le ciel. Je ne mérite pas le ciel. Il n'y a rien que je peux faire, rien que j'ai fait pour mériter le ciel. On oublie souvent ça. On oublie cet aspect-là parce qu'on se dit, OK, Seigneur, quand je me donne à toi, je laisse derrière moi mes péchés, je laisse derrière moi mes fautes. Je laisse derrière moi toutes les choses mauvaises. Oui, mais tu laisses aussi toutes les bonnes choses quelque part. Tous tes mérites, tout ce que tu penses avoir accompli. Tout ce que tu penses qui font de toi une bonne personne, ça aussi tu les laisses de côté. Parce que Dieu, il dit, je veux renouveler ta façon de voir. Je veux renouveler ta vision. De la même manière qu'il a renouvelé en Abraham la notion de vie éternelle qu'il lui a donnée, qu'il lui a montrée, Dieu veut te montrer à toi aussi quels sont ses rêves, quels sont tes rêves et quelle est la nouvelle vision qu'il a pour ta vie. Quand il est sur la croix, en Luc 23, 34, Jésus va dire ces mots, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne-leur. Ce cri de Jésus sur la croix, il est pour chacun d'entre nous. Père, pardonne-leur, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il pense faire, il pense continuer à marcher de sa façon à lui, mais Dieu dit non, 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 il ne sait pas ce qu'il fait, je veux le changer. Il y a une notion d'espoir là-dedans. Avant toute accusation, il dit pardonne-leur. Pardonne-leur. Ce pardon-là, il est pour nous aujourd'hui, il est pour chacun d'entre nous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Jésus, il est là, il dit, pardonne-leur, Père. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je disais que dans Romains 6, 23, on a ces oppositions. Car le salaire du péché, c'est la mort. Point virgule. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Il y a quelque chose qui a changé entre ces deux points virgule. Entre ce point virgule-là, il y a un point de rupture qui te fait passer de la mort à la vie. Un point de rupture, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se passe. Alors qu'on avait... Je voyais ces terribles attentats qui ont pris place dans la banlieue de Moscou. Je replongeais un petit peu dans l'histoire de la Russie et je suis tombé sur une anecdote qui m'a bouleversé. Une anecdote historique qui s'est passée à la fin du 19e siècle. Je ne sais pas si vous le savez, mais avant, Poutine, plein de monde entre là, mais Staline, Lénine, il y avait les tsars. En fait, avant ce qu'on appelait la révolution bolchevique, début du 20e siècle, en fait, la Russie était dirigée de manière héréditaire par des tsars, comme des rois. On connaît tous peut-être l'histoire du tsar Nicolas II et de sa fille Anastasia, vous avez peut-être entendu parler. Mais le père de Nicolas II s'appelait Alexandre III. Et Alexandre III, il a régné en tant que monarque absolu. Il était continuellement conscient des menaces auxquelles il était confronté de la part de l'opposition. Et il était déterminé à ne pas céder en termes de réformes sociales, de réformes politiques. Son père avait été assassiné, donc avant lui, Alexandre II. Et lui s'est dit, il ne va pas m'arriver la même chose. Il ne va pas m'arriver la même chose. Alors je vais constamment, avant même que les gens aient l'idée, il les enfermait. Avant même qu'il était réputé pour être extrêmement rigide, extrêmement cruel. Et à ce moment-là, les gens étaient envoyés, soit ils étaient tués sur place, soit ils étaient condamnés à mort, soit ils étaient envoyés en Sibérie. Bon, ça ne se fait plus aujourd'hui, je vous rassure, ils ne font plus ça du tout. Hein, on a pu le voir dans l'actualité. Mais c'est ce qui se passait à l'époque. Ils étaient envoyés en Sibérie et très peu en revenaient, très très peu. Et un jour, sa femme, la tsarina Maria Féodorovna que vous voyez sur l'image. Elle, elle avait un cœur compatissant. Je vous disais que son fils, ça a été le tsar Nicolas II. Elle a élevé le tsar Nicolas II en lui inculquant les notions de bonté, de générosité. À tel point que le tsar Nicolas II, qui a été ce qu'on a appelé le dernier des Romanov, le dernier tsar, eh ben, ce dernier tsar, il a été, son surnom, c'est le Pacifique. Parce qu'il a toujours cherché la paix, toujours cherché à sa façon. Et cette dame, donc cette dame, elle était extrêmement généreuse, extrêmement, extrêmement bonne dans son cœur. Elle avait un cœur compatissant, elle était reconnue pour ça. Et elle est tombée sur un document qu'Alexandre, son mari, donc, avait signé. Et sur cet acte de condamnation, il y avait une liste de traîtres. Soit c'était avéré, on ne le savait pas, soit c'était présumé, il y avait une liste de traîtres. Et à côté de chacun des noms, il y avait une petite mention qui était écrite. Le tsar avait écrit à chaque fois une petite mention, condamné à mort. Nanana. Et à côté d'un des condamnés, on n'a pas retenu son nom dans l'histoire, mais à côté d'un des condamnés, il y avait cette mention qu'avait écrit le tsar, pardon impossible, à envoyer en Sibérie. Elle était compatissante, elle avait le cœur bon, elle s'est dit, je peux faire quelque chose pour changer la vie de cet homme. Et de la même manière que dans Romain, il y a un point virgule, elle a dit, je vais déplacer la virgule. Elle a pris un petit crayon, elle a comme gratté, elle a déplacé la virgule, elle l'a mis après le mot pardon, et ça a donné pardon. Impossible à envoyer en Sibérie. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que Jésus, il a changé la ponctuation de ta vie. Jésus, il a changé l'orthographe, il a changé la grammaire, mais il a changé aussi la destination de ta vie. Par Jésus, on passe de la mort à la vie. Par Jésus, la fin devient l'espoir. Par Jésus, la faute devient le pardon et le don de la grâce. Passer de la mort à la vie, c'est s'humilier, comme tous les pécheurs, mais croire que Dieu m'accepte personnellement. Je laisse derrière moi tout ce que je pense qui fait de moi une mauvaise personne, une bonne personne. Je m'humilie et je me dis non, Seigneur, il n'y a rien qui fait de moi une meilleure personne que la personne à côté de moi ou n'importe laquelle, n'importe lequel des pécheurs. Aucune de ces personnes-là n'est meilleure que moi. Je me mets au pied d'égalité. Je vaux la même chose. Mais Seigneur, je crois que personnellement, tu m'as aimé le premier et tu m'acceptes. Ça, c'est la réponse de la foi. La réponse du fait de dire « je meurs à moi-même, je m'abandonne à moi-même et je reçois quoi ?» Le don de la grâce. Le don de la grâce dont nous parle l'apôtre Paul dans Romains 6, 23. Ce qui change, mes amis, c'est l'espoir. Par la foi et parce que « Seigneur, tu es mort pour moi. Moi, je meurs à moi-même. » Et je saisis l'espoir. Je saisis la nouvelle vie en Christ. C'est notre chemin en tant que croyant vers la résurrection. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu ne connais pas Dieu, tu es ici pour l'une ou les premières fois, tu n'as aucune idée de ce que c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là, il est disponible. Cette paix dont je parlais au tout début de ce message, elle est disponible pour toi. Cette paix inconditionnelle qui ne dépend pas de toi. Il n'y a rien que tu as à faire de plus ou de moins. Tout a déjà été accompli. Alors que Jésus meurt sur la croix, pardonne-le. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Sans condition. Ce n'est pas mention ce qu'il faisait. Il n'a même pas mentionné Jésus. Il a juste dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus te pardonne, ce don de la grâce, il est pour toi aujourd'hui, pour passer de la mort à la vie. Et si c'est ton cas aussi, depuis des années, tu viens à l'église, tu es croyant, mais Dieu est devenu comme une théorie pour toi. C'est la théorie du dimanche matin. Cette théorie-là, c'est je viens, je m'adresse à Dieu, je lève mes mains, je chante. Mais c'est comme devenu mort ou vide à l'intérieur de toi. Tu as perdu cette connexion avec le don de la grâce. Tu as perdu cet aspect du don de la grâce que tu dois te rappeler jour après jour, semaine après semaine. Ce don de la grâce, il n'est pas disponible. Une fois, il est disponible aujourd'hui, il est disponible demain, il est disponible dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Il est disponible toujours, à toute heure de la journée, il est disponible pour toi. Et tu as perdu cette connexion peut-être. Dieu t'appelle à rétablir cette connexion ce matin en ouvrant ton cœur, en ouvrant ta vie. Dans quelques instants, on va chanter un chant. Ensemble. Et j'aimerais que pendant ce chant, si tu veux bien, tu puisses ouvrir ton cœur, ouvrir tes bras et dire Seigneur, soit pour la première fois, soit peut-être pour la 10e, 20e, 30e fois, notre Dieu est le Dieu de la première chance, de la deuxième chance, de la troisième chance, encore, encore, encore et encore. Qu'importe le nombre de fois, tu puisses ouvrir ton cœur à la grâce et au don de la grâce de Dieu ce matin. et de dire, Seigneur, qu'importe ce que j'ai fait, qu'importe, Seigneur, j'ouvre mon cœur, je m'abandonne à moi-même. J'abandonne mes rêves, j'abandonne ce que je pensais, j'abandonne mes propres conceptions. Je me livre à toi et Seigneur, c'est plus moi qui vis comme on l'a chanté, c'est toi qui vis en moi maintenant. Je vous invite à vous lever à votre place si vous voulez bien.